Effectivement, donc, par rapport au SIC, nous avons d'abord, peut-être deux mots sur OCRA,
Je vous en prie.
même si c'est dans le dossier. Donc OCRA, c'est une ancienne usine d'ocre, hein, donc on est à Roussillon dans le Vaucluse. C'est au départ un projet sur la transmission de savoir-faire. Donc nous, on ne s'est jamais posé la question d'innovation ou la question des communautés sociales solidaires. Bon, je parle de projet, ça fait 20 ans, hein, donc c'est toujours un projet. Mais c'est la question de base, c'était de dire qu'est-ce qu'un savoir-faire technique, comment il se crée, comment il se développe, et comment éventuellement il meurt, et qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir sur la préservation d'un savoir-faire. La question qu'on s'est dit au départ, c'est que ces savoir-faire techniques sont créés par les artisans, les entreprises, et que seuls pour nous, les acteurs économiques sont créateurs de ces savoir-faire, sont en mesure de les transmettre. Donc ça, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, c'était le point de départ. Et à partir de ce moment-là, on cherchait un lieu. Par hasard, on a découvert une coquille vide, sur la commune de Roussillon. Nous, on avait l'idée d'un projet, mais absolument pas sur l'ocre, ni sur la couleur. C'est venu après. Et là, c'est la rencontre, entre autres, de porteurs de projets avec une collectivité. Donc, la première innovation, ça a été ça. C'était une collectivité qui ne savait pas quoi faire. Nous, il nous fallait une bouteille. Hein, on avait le contenu, il nous fallait le contenant. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on peut faire quelque chose. Et j'ai beaucoup apprécié la question de modèle, parce que nous, on considère qu'on a un modèle économique, mais on met toujours en avant le contexte. S'il n'y avait pas eu le parc du Luberon qui était toujours attentif à des porteurs de projets, à une innovation, s'il n'y avait pas eu le producteur d'ocre, la Société des Ocres de France, je pense qu'on n'aurait pas fait le projet à Roussillon, on n'aurait pas fait le projet du tout, parce que pour nous, s'il n'y avait plus de producteurs, il n'y avait plus de ressources, il n'y avait plus d'éléments. Il y avait des artisans qui étaient isolés, et souvent dans le domaine culturel, ce que l'on n'aborde jamais, c'est qu'on n'aborde jamais la question du client. Et nous, dès le départ, on s'est dit que si on ne maintenait pas un savoir-faire dans un marché, il y aurait pas, et s'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait plus de marché. Donc, dès le départ, le projet, on ne s'est pas posé la question de quelle économie c'était pour nous. Il fallait qu'on reste donc travailler sur l'ensemble des parties prenantes qui constituent un marché. Et à l'époque, c'était en 94, hein, ça fait un peu ancien combattant. Mais en 94, quand vous vouliez proposer à une collectivité un projet culturel, vous avez deux cas, soit vous étiez association, soit vous étiez pas culturel, parce qu'en France, vous êtes une association donc, reconnue culturelle, donc on peut vous recevoir, on peut vous aider, mais si vous voulez créer un projet culturel sous forme de société, SARL, vous n'êtes même pas reçu. Ça a un peu évolué, ça n'a pas totalement évolué. Donc nous, au départ, on a pris le statut associatif, on s'est développé pendant 10 ans, en 2004. On était 10 salariés équivalents temps plein, 900 000 euros de chiffre d'affaires, 500 adhérents. Et on s'est posé la question de la pérennité. C'est-à-dire que si on pense que pour la pérennité de la structure, il faut que ce soit les créateurs techniques qui font la culture, nous-mêmes, comment on peut transmettre le projet? Et c'est là qu'on s'est posé la question du statut. Et un statut qui passait par là, qui s'appelait SIC, hein, Société coopérative d'intérêt collectif, loi de 2001. Ça nous a permis, ça nous a semblé comme un gant. Et donc, il n'y a pas eu, il y a une transformation qui a mis 2 ans parce qu'il fallait prendre le temps avec tous les sociétaires, enfin tous les adhérents, pardon. Et dans l'association, il y avait déjà des collectivités, il y avait déjà des entreprises, il y avait déjà des salariés, il y avait déjà tous les consommateurs, enfin des utilisateurs, des bénévoles. Donc l'écosystème était déjà en place. Donc pour nous, il n'y a pas eu de changement de projet économique ou c'était pour nous une simple évolution. Et on s'aperçoit au bout de 10 ans de coopérative, puisque on est vraiment binaire, hein, 10-10, on s'aperçoit qu'en fin de compte, les choses ne sont pas passées comme on le pensait. Elles ne sont pas passées comme on le pensait parce que pour beaucoup de collectivités, et entre autres la première, la nôtre, la commune, le fait de passer en structure commerciale, pour elle, c'est une SA, une coopérative, mais bon, une coopérative, c'est un peu loin. Je suis un PDG, donc on avait franchi le pas, on avait quitté le culturel pour faire une entreprise comme une autre. Donc eux, ils considèrent qu'on est une entreprise comme une autre. Alors que dès le départ, que ce soit le choix du statut associatif ou le choix du statut coopératif, d'intérêt collectif, c'est un projet collectif dans l'essence, puisque nous, on ne crée pas de richesse. La première richesse qui est créée, c'est la commune de Roussillon qui a acheté une friche à 40 000 euros. Aujourd'hui, d'un commun accord, si on l'estimait, c'est probablement aux alentours d'1 million d'euros, ce bâtiment, c'est cet ensemble. Donc la grande difficulté, je ne veux pas être trop long, c'est de dire que une collectivité, donc aujourd'hui, je vous ai dit, on a beaucoup de collectivités, on a tous les échelons jusqu'à la région, hein, communauté de communes, le parc du Luberon, la région, le département du Vaucluse est en train de rentrer. Et aujourd'hui, la question, c'est comment une collectivité de simple soutien dans une structure économique, comme une SIC, qui est une société, c'est bien une société qui produit, donc nous on produit des services, comment de simples financeurs, donc soutien important, indispensable, comment elle peut passer sociétaire, hein. Et donc là, je n'irai pas plus loin, mais c'est la fameuse double culture de la coopérative. Vous êtes salarié coopérateur, donc vous avez la casquette salarié avec avec un contrat de travail, avec une hiérarchie, avec des obligations, mais l'autre côté de la casquette, vous êtes aussi copropriétaire de l'entreprise. Ben, cette double qualité, elle doit être appliquée à tout le monde, y compris dans les collectivités, ce qui faisait dire à une spécialiste juriste lors de la dernière Assemblée générale que c'est un peu schizophrénique, c'est que nous, on est avec une collectivité qui est délégataire en délégation de services publics, donc elle est délégant, et en même temps, elle est sociétaire. Donc comment elle peut être en même temps contrôleur et elle peut exiger des choses et en même temps se poser la question, étant sociétaire, comment je peux faire pour aider mon délégué?